Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les Dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Alors, dans notre paragraphe sur la chute, nous avions parlé un petit peu de cette reconnaissance du mystère de l'iniquité qui s'éclaire à la lumière du mystère de la piété, c'est-à-dire il faut regarder le salut donné en Jésus-Christ pour reconnaître ce côté sombre, cette dimension du péché. Quand on va plus loin, je trouve important de voir à l'article 386, pour essayer de comprendre ce qu'est le péché, il faut d'abord reconnaître le lien profond de l'homme avec Dieu, donc dit le catéchisme. Car en dehors de ce rapport, le mal du péché n'est pas démasqué dans sa véritable identité de refus et d'opposition à Dieu. Et puis, au 387, il va y avoir ce lien entre le péché et la liberté. Dans un premier temps, il y a péché lorsqu'il y a rupture de reconnaissance de Dieu ou de reconnaissance de la relation à Dieu. Quand on coupe les choses, on enlève le lien profond de l'homme avec Dieu, mais aussi... Il y a péché parce qu'il y a liberté. Et on peut avoir tendance à minimiser l'expérience du péché en disant que c'est une sorte de détermination par des structures dans lesquelles l'homme, finalement, n'a plus sa pleine responsabilité.
Tout à fait. Ça a été d'ailleurs l'expérience de saint Augustin dans le manichéisme. Il était très, très heureux de découvrir une doctrine qui, d'une certaine manière, justifiait son péché. Car les manichéens pensaient qu'il y avait une réalité matérielle, et dans leur dualisme, ils voyaient de l'autre côté une réalité spirituelle qui était l'âme. Et ils disaient, c'est le corps qui pêche, donc rassurez-vous, tout ce que vous faites de mal, c'est parce que vous êtes orienté dans votre corps au mal. Mais dans les profondeurs, dans votre âme, vous êtes dans la lumière. Vous êtes des hommes qui, sinon, seraient non éclairés si vous ne savez pas ce grand secret de la vie. Donc, c'était à la fois un dualisme et un peu gnostique. Il fallait être initié, si vous voulez, pour connaître ceux qui étaient des iliques, qui étaient des terrestres, qui étaient marqués par la chair, et ceux qui étaient au contraire marqués par l'illumination de cette doctrine. Et saint Augustin s'est complu dans cette doctrine pendant des années, jusqu'à ce qu'il découvre avec Platon que le mal était privation de bien. Ce n'était pas la matière. La matière, elle est bonne. Et nous l'avons déjà vu dans le début des récits de la création, à propos des jours de la création, à chaque fois Dieu s'exclame, et Dieu vit que cela était bon. Donc la matière elle-même est bonne. Et nous comprenons très bien que ce gnosticisme réapparaît régulièrement. Quand vous avez des psychologues qui disent à propos de personnes qui ont commis des actes intrinsèquement mauvais, « Ah, mais non, il n'est pas responsable, c'est qu'il a eu une petite enfance tourmentée, il a eu ceci, il a eu cela, ce sont les conditions sociales, etc. » Ils confondent détermination et conditionnement. C'est vrai que le conditionnement joue, mais il ne faut pas lui donner toute la place. Il reste la détermination de la volonté, la détermination de celui qui veut et qui se met sous la lumière. Pour se mettre sous la lumière, il faut l'accepter. Faire la vérité, quand Jésus utilise cette expression dans sa rencontre avec ce sage d'Israël qui s'appelait Nicodème, qui venait le voir de nuit, il l'invite à faire la vérité. Faire la vérité, c'est se mettre sous la lumière de Dieu. Tant qu'on est dans les ténèbres ou dans la pénombre, je dirais, on ne voit pas ce qui est encore dans l'ombre. Parce que, justement, tout est gris, tout est nuageux. C'est quand la lumière vient que tout à coup, on voit ce qui est dans l'ombre. On a besoin de venir à la lumière. Et notre âme aspire, en fait, à la lumière et à la vérité tout entière. C'est cette expérience de sortie du péché qui permet finalement de découvrir que nous étions dans le péché. Tant qu'on est dans l'ombre, on est dans le mélange, comme saint Augustin qui confondait finalement conditionnement et détermination. C'est vrai que le corps nous conditionne, mais il y a des déterminations profondes, et ces déterminations influent. L'âme est maîtresse, l'âme est forme, détermination, acte du corps quand on le veut bien. Et il y a une expérience donc très belle que fit saint Augustin en découvrant donc la possibilité un jour de la conversion. Tolle legge, prend et lit, et puis il a lu un passage de Romains 13:13, et il a vu dedans qu'il fallait abandonner les œuvres de la chair. Effectivement, il était complètement conditionné par cet habitus de péché, mais il n'arrivait plus à l'appeler péché. C'est quand il a lu la parole de Dieu, tout à coup, qu'il s'est aperçu qu'il était esclave de la chair, esclave de ses vices, de ses habitus. Et vous comprenez que vous lisez parfois des journaux dans lesquels on essaie de vous entraîner à dire oui, des nouveaux modèles de famille, des nouveaux modèles de conditionnement, et ceci, et cela, mais en fait, par derrière, c'est l'expérience de saint Augustin qui se cache de son péché, qui refuse la lumière, qui préfère ce brouillard. C'est frappant de voir que quand Hitler s'attaquait au bien commun de l'Europe, et en particulier de la France, il utilisait toujours des opérations qui étaient toujours autour des thématiques de l'ombre et des ténèbres. À chaque fois qu'il y avait la nuit des longs couteaux ou des expressions comme ça, c'était des déclarations de travailler de nuit. Or, Nicodème arrive devant Jésus, c'est un chef des Juifs, il arrive, dit Saint Jean chapitre 3, de nuit. Et Jésus le démasque, Jésus lui dit, mais ça ne suffit pas, il faut que tu naisses d'en haut, il faut que tu choisisses ton camp. Le camp de la lumière contre le camp des ténèbres.
Je fais une petite parenthèse. Frère Édouard, tu es un connaisseur de saint Augustin, et puis bien des gens connaissent saint Augustin et sa vocation, mais je voudrais juste préciser, pour ceux qui ne connaissent pas, tout à l'heure tu disais... Tolle legge, quand saint Augustin, au moment de sa conversion, il explique qu'il a entendu ça comme un chant d'enfant, ne sachant pas d'où ça venait, donc prend et lit, et qu'effectivement il a pris le livre, la Bible qui était vers lui, et il a lu donc le passage que tu mentionnais, Romains 13:13.
Il avait été frappé par l'expérience de saint Antoine qui quelques décennies avant lui, était rentré tout à coup mystérieusement dans une église et avait entendu cette parole de l'Évangile, « Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. » Il avait compris tout à coup, Antoine, que c'était pour lui. Et saint Augustin avait donc cette aspiration qu'un jour, quelque chose du même ordre lui advienne. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne soit plus une vérité, je dirais, qui se déroule comme sur un papier, mais qui devienne une vérité pour lui, pour son salut, pour son histoire propre. Et c'est cette expérience donc du prend et lit, où un petit enfant chantait cette comptine dans la maison des voisins, alors qu'il était à Cassisianum, un petit peu au nord de Milan, avec quelques amis, et il méditait sur la parole de Dieu, il méditait sur les très belles homélies de saint Ambroise, et il commençait à se poser de sérieuses questions qui vont déboucher sur son baptême en 386.
Ce qui renvoie à ce que je disais au tout début, finalement, cette anecdote de la phrase que saint Augustin entend, dans laquelle il reconnaît un appel de Dieu, donc la relation à Dieu est comme si elle était créée ou confirmée par cette voix qu'il entend, cette voix d'enfant. À partir de là, il va y avoir conversion, parce qu'il va y avoir reconnaissance du péché, parce qu'il va y avoir reconnaissance de la relation qu'il a avec Dieu et que Dieu a vraiment entretenu avec lui, tissé avec lui. Ce que je rappelais au départ, que l'on trouve dans le catéchisme, il y a pour reconnaître, pour comprendre ce qu'est le péché, il faut d'abord reconnaître le lien profond de l'homme avec Dieu. C'est parce qu'on aime Dieu, parce qu'on est en relation avec lui, que l'on va reconnaître au moment où où on s'en décroche de cette relation, où on l'abîme.
Mais bien sûr, oui, c'est ça. Et quand on la retrouve, alors on retrouve et notre Créateur et notre Rédempteur. Sinon, comme dit très bien le catéchisme dans le numéro 387, on est tenté d'expliquer notre situation uniquement comme un défaut de croissance, comme une faiblesse psychologique, comme une erreur, comme la conséquence nécessaire d'une structure sociale inadéquate. Finalement, c'est un peu la tentation que Adam a eue quand il a été interrogé au paradis terrestre par Dieu. Qu'as-tu fait ? Et qu'est-ce qu'il répond ? Il a du mal à avouer qu'il a mangé le fruit de l'arbre. Et puis finalement, il l'avoue, mais il dit « ce n'est pas moi, c'est la femme ». Il refuse finalement sa responsabilité. Et c'est la grosse tentation finalement de celui qui ne veut pas reconnaître son péché, c'est de détourner sa responsabilité sur autre chose, une structure sociale, une autre personne, etc. Surtout pas moi, mais l'autre. Et ça, c'est vraiment très caractéristique de celui qui n'est pas encore au niveau de la reconnaissance du péché.
Il est important d'entendre dans le sacrement de la réconciliation celui qui nous sort du péché, ce qui nous remet dans la relation à Dieu, que c'est la phrase que nous recevons du Sauveur lui-même, « Je te pardonne tous tes péchés » par la voix du prêtre. C'est bien Dieu qui, oui, nous qui recrée la relation « Je te pardonne tous tes péchés ».
Oui, et c'est vrai qu'on peut prendre l'image de la croissance, et c'est vrai que le petit enfant trébuche avant de marcher, il tâtonne, etc. Et même saint Irénée a pris cette image pour parler d'Adam trébuchant et finalement arrivant à devenir, par la grâce, fils de Dieu. Mais ce ne sont que des analogies, et il ne faut pas les majorer. Ce qui est déterminant, c'est lorsque le Saint-Esprit, comme dit l'évangile de saint Jean, nous convainc de péché. Tant qu'on n'est pas convaincu de péché, je dirais, on est encore à la porte de la grâce et de la rédemption.